Les Enfants des Yeux est à l'origine un spectacle théâtral qui aurait dû être joué par les enfants et adultes de l'atelier théâtre de l'école intercommunale de musique, danse et théâtre de Fort-Calquier-Montagne-de-Lure. Pour cause de coronavirus, ce spectacle n'a pu avoir lieu. C'est donc une version radiophonique qui vous est proposée. Respectant les gestes barrières et donc enregistrés à distance, tous ont eu à cœur d'aller au bout de l'aventure, tant il leur semblait important de rappeler que, comme l'a écrit Bertolt Brecht, le ventre est encore fécond, d'où a surgi la bête immonde. 10 personnages. 6 enfants et adolescents, pensionnaires de la colonie. 2 filles, Esther, 12 ans, et Mina, 8 ans. 4 garçons, Théodore, 16 ans, Jacques, Herman, 12 ans, Max, 13 ans. Le jeune voisin, Pierrot, 13 ans. 3 femmes, Gabrielle, jeune institutrice, elle raconte. Eva, la soixantaine, cuisinière, maîtresse de maison, un peu grand-mère de remplacement. Rose, la voisine, un peu plus de 60 ans, grand-mère de Pierrot. Une grande maison, un peu à l'écart du village, nous sommes dans la salle à manger, non, plutôt dans le réfectoire. 4 grandes tables, des bancs, un buffet. Quelques étagères avec de la vaisselle, des assiettes, des bols, des verres. Sur la table, une grosse miche de pain. Théodore, Maurice, Herman, Esther, les yeux encore gonflés de sommeil, déjeunent en silence. Mina, elle, ne mange pas et feuillette un livre. Eva les sert.
Ici Londres. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras. Nous disons le manchot la serre dans ses bras deux fois. Le fantôme n'est pas bavard. Les bombardements sont massifs.
Tu peux recouper du pain, s'il te plaît ?
Bien sûr.
En ce matin du jeudi pascal 1944, il est 8 heures. Dans la cuisine de la colonie du hameau de Lélinaz. C'est le premier jour des vacances de Pâques. Les plus grands, internes au lycée public à une vingtaine de kilomètres, sont rentrés la veille au soir pour le temps des vacances. Ce matin, il n'y a pas de contrainte d'horreur, chacun se lève un peu quand il le veut. Eva, à la fois cuisinière et beaucoup grand-mère de remplacement, est là qui s'occupe d'eux et, comme c'est un peu fête, leur prépare un chocolat, enfin un presque chocolat, hein, du lait mélangé à de la chicorée en poudre. Il y a la Théodore, Maurice, Esther, Mina et Herman. Il y a aussi Suzanne, la fille d'Eva. Elle est médecin et gère la santé de la colonie. Elle fait en outre un peu office de directrice. Les 40 autres, garçons et filles, sont encore couchés. Ils ont fait, la veille, une petite fête pour l'anniversaire de Mina. Elle vient d'avoir 8 ans. Elle s'est levée tôt, impatiente qu'elle était de lire ce très beau livre des fables de La Fontaine que je lui ai offert avant de partir en vacances. Mina, c'est une très bonne élève. Volontaire, courageuse. Moi, je suis Gabrielle, jeune institutrice. C'est mon premier poste. Je suis là depuis octobre 43. Je suis logée au village. Les enfants ont tous les âges. Ce sont des enfants intelligents et doués. Il y en a quelques-uns que je pense emmener en sixième et d'autres au certificat d'études. J'ai tout de suite compris qu'il ne fallait pas poser de questions à ces enfants réfugiés qui avaient déjà un lourd passé. Ne pas savoir. Pour ne pas les trahir. Au point, le jour de la venue de l'inspecteur d'académie dans la classe, d'expliquer qu'ici, il n'y a pas de registre. Ce jour-là, l'inspecteur aussi a fermé les yeux. Je suis partie hier soir en vacances dans ma famille. Je reviendrai à la rentrée.
Luna, il faut que tu manges. Tu liras plus tard. Tu as toute la journée et toutes les vacances pour ça.
Je n'ai pas faim. Et puis, je n'aime pas le chocolat. Et puis, ce n'est pas du chocolat, du vrai.
Le vrai chocolat, ma belle, à cette heure-ci, c'est les Allemands qui le boivent. Et puis, dis donc, je me casse le trognon à vous faire un ersatz de chocolat pour tremper vos tartines, et voilà que tu me fais la difficile. Si tu préfères, j'ai de l'orge grillée. Avec du lait, on dirait presque du café au lait. Et je commence à en avoir marre de vos histoires. J'aime pas ci, je n'aime pas ça, je n'aime pas les rutabaga, je n'aime pas le gras, gna 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 gna. C'est la guerre. Et à la guerre, comme à la guerre.
Ne te fâche pas, Eva. Elle va bien finir par manger. Il faut bien que de temps en temps on l'oublie, cette sale guerre. Les enfants restent des enfants.
Tu as sans doute raison. Allez, ma belle, tu manges.
Je n'ai pas faim, je te dis.
Eva, je peux manger sa part? Mina, tu me la donnes?
Et pourquoi à toi? Pourquoi pas à moi?
Et pourquoi pas à moi? C'est vrai, ça. Et pourquoi, monsieur, ça devrait être un garçon qui ait sa part? Nous aussi, les filles, on mange. Nous aussi, on a faim. Et moi, le gras, le rutabaga et le reste, tout fait ventre.
Pourquoi moi? Parce que je suis le plus grand et que j'ai besoin de plus manger. J'ai tout ça à remplir.
Justement, comme tu es déjà grand, tu as moins besoin. Et c'est surtout la bouche que tu as de grande, et pas que pour manger. Parce que pour dire des bêtises, tu es le champion, le roi.
Alors que moi, je ne demande qu'à grandir. Et pour ça, il faut que je mange la part de Mina.
Dites donc, les enfants, c'est bientôt fini ces histoires. Mina, tu te mets à table et tu manges.
Je n'ai pas envie, je te dis, je n'ai pas faim.
Ce n'est pas quand on a faim qu'il faut manger, mais quand il y a quelque chose à manger qu'il faut avoir faim. Réfléchissez un peu dans vos petites têtes de moineau.
Allez Mina, tu me fais plaisir. Viens te mettre à table. Si tu veux, ton livre, on le lira ensemble, tous les deux, tout à l'heure. Et tu manges un peu, c'est important si tu veux grandir.
Je n'ai pas envie de grandir. Surtout sans ma maman et mon papa.
Et ta Claudine, tu y penses? Elle, elle a besoin d'une grande sœur, en pleine forme, et qui mange.
Bon allez, je mange, mais c'est vraiment que pour te faire plaisir.
Tu es formidable, je suis fier de toi, on est tous fiers de toi.
N'importe comment, c'est tout le temps comme ça, il n'y en a que pour eux.
Pour eux qui?
Bah pour vous, les Polaques, et je sais ce que je dis.
Et c'est quoi que tu dis? Et tu sais ce qu'ils te disent, les Polaques?
Stop! Ça suffit. Jacques, c'est quoi cette histoire que tu nous fais?
C'est rien. C'est simplement comme d'habitude. Tout le monde n'est pas né dans les pays de l'Est. Il y en a comme moi qui sont nés au Sud, au soleil. En Algérie, par exemple. Et ceux-là, on les traite d'Arabes, de Moricots. Et moi, je suis pas votre Arabe. Je suis l'Arabe de personne. Je suis comme vous. Je m'appelle Jacques Benguigui. Je suis né le 13 avril 1931 à Oran, en Algérie. J'ai deux frères ici avec moi, Richard et Jean-Claude. Ils sont plus jeunes que moi. Ils ont 7 et 5 ans. À cette heure-ci, ils dorment encore. J'ai aussi une petite sœur, Yvette. Elle est au village de la famille héritier. Ceux qui s'en occupent. ils n'ont pas d'enfants, alors ils font un peu comme si elle était de leur famille. On a quitté l'Algérie en 1942 et on est venu vivre à Marseille. Il y a un an, maman et papa ont été arrêtés, emmenés. Et nous, les enfants, on a atterri ici à Izieux. Je ne sais pas ce que l'on va devenir. L'autre jour, ma petite Yvette m'a demandé pourquoi il y avait tout ça contre nous. Je n'ai pas su quoi lui répondre. Jean-Claude, lui, il fait tout le temps le clown et de la gymnastique. Tout le monde rigole, mais je vois bien que c'est parce qu'il a envie de pleurer. En Algérie, j'étais scout. J'aimais bien, on faisait plein d'aventures dans la campagne. J'avais un copain qui s'appelait Mouloud. Lui, ça ne gênait pas que je sois juif. Au fait, je ne vous ai pas dit, ma maman, son prénom c'est Fortuné. On est bien avancé.
Tu ne trouves pas qu'on en bave assez, que maintenant tu vas faire comme eux, séfarades ou ashkénazes? On est tous dans la même merde. Ici, au fin fond de la France, avec des parents morts ou disparus. On ne sait pas ce que l'on va devenir, où on sera demain. Alors vos histoires de séfarades et d'ashkénazes, on s'en fout, bordel. On s'en fout.
Théo, tu parles correctement. Ce n'est pas un exemple à donner à Mina et aux autres. D'être le plus vieux, ça te rend responsable. Et toi, Jacques, mange ta part et arrête de dire des bêtises aussi grosses que toi. Ce n'est pas Dieu possible d'être le plus grand et d'être le plus bête.
Désolé, Eva. Je ferai attention. Mais il m'a trop énervé.
Je dirai ce que je voudrais. Et ce n'est pas un Polak qui me fera changer d'avis.
La porte vient de s'ouvrir. Entre Max, une petite valise à la main. Il arrive de Belay où il est interne à l'école catholique. Tous les samedis, il revient à la colonie et repart le dimanche soir. Ses parents sont polonais. Son père a été arrêté par les gendarmes français en mars 42. Il n'a pas de nouvelles. Lui et son petit frère, Jean-Paul, après être passés par Drancy en février 43, sont arrivés ici. Leur maman a jusqu'à présent échappé aux rafles. Elle est en région lyonnaise avec Hélène et Berthe, ses deux petites sœurs.
Tu es venu comment ?
À Pince, pédibus, jambus. 2 heures de marche, j'ai coupé par endroits.
Tu n'as trouvé personne pour te prendre ?
Si, juste en bas, à Brignier, le père du porc, qui montait des sacs de farine. J'ai bien essayé de lui en prendre une poignée, mais les sacs étaient trop bien fermés. Bon, je mange un bout et je vais réveiller mon Jean-Paul. Il me manque trop là-bas, à Belay.
Je te comprends. Moi, ici, au moins, j'ai de la chance d'avoir avec moi mes deux petits frères. Dommage pour la farine. On aurait pu se faire des galettes.
Avec du miel.
Et tu en as du miel, gros malin. Le miel, aujourd'hui, c'est précieux. C'est comme le reste. C'est les Allemands qui le mangent.
Il y en a ici, au village du miel. J'ai vu des ruches l'autre jour, en me promenant.
Bien sûr qu'il y en a, mais ce n'est pas pour nous.
Izieux est un petit village du Bugey, dans l'Ain. À cette époque, le village est situé en zone d'occupation italienne. Ceux-ci appliquent une politique de bienveillance à l'égard des Juifs. Elle est alors un espace refuge pour nombre d'entre eux. L'installation de la colonie se fait donc légalement avec l'appui de la sous-préfecture de Belay. La colonie n'est pas cachée ou clandestine. Peu à peu, le quotidien s'organise et les membres de la colonie trouvent leur place dans cet environnement rural. Des liens se tissent avec les habitants et les institutions locales. Quelques enfants sont placés dans des familles, quelques autres sont accueillis au lycée et dans une école catholique de Belay. Le lieu semble un véritable havre de paix, loin des conflits et des persécutions. Les plus petits souffrent de la séparation brutale d'avec leurs parents, dont ils sont parfois sans nouvelles. Les adolescents et les adultes pensent être en sécurité. Les habitants du village et des environs connaissent la présence de ces enfants juifs à Izieux. Les relations avec les proches voisins dont la ferme jouxte la colonie, sont très bonnes. Ils les fournissent en lait, œufs et pommes de terre. Le 11 novembre 1942, l'armée allemande envahit la zone non occupée. À trois reprises, au moins, un gendarme avertit les adultes de la colonie d'un danger qui pourrait les menacer.
Pendant la musique est arrivée Rose, la voisine. Elle porte un panier. Agricultrice, elle approvisionne parfois la colonie en œufs ou en pommes de terre.
C'est beau. Ça nous change de l'harmonium à l'église. C'est de la musique de chez vous ?
Oui, c'est de la musique de chez nous. C'est de la musique des gens comme nous qui venons des pays de l'Est. Ça raconte un peu nos vies, nos bonheurs, nos chagrins. Ça se chante, ça se danse aussi.
Vous venez d'où ?
Nous, on vient de Roumanie. Moi, j'y suis née. Mon mari aussi. Mais ça fait longtemps que nous vivons en France. Mes enfants y sont nés. Ils sont tous les deux français. Ils sont médecins. Ma fille, vous la connaissez. C'est Suzanne qui fait la directrice de la colonie. Et mon fils, lui, il est reparti il y a quelques jours. Je suis avec mon mari. Mais lui, il ne sort pas beaucoup. Il est trop fatigué. Et le vôtre de mari ? On ne le voit pas non plus beaucoup. Il n'y a que Pierrot qui vient jouer ou voir nos enfants. Il est bien brave, votre Pierrot. Et je crois qu'il en pince un peu pour notre Esther.
Oui, c'est un beau petit. Il nous aide bien. On aimerait bien qu'il fasse le facteur. Il va passer son certificat. Il aime pas être enfermé. Et puis, c'est un bon métier. Et puis, il y aura toujours du courrier à distribuer.
C'est vrai.
Mon mari, lui, il est comme le vôtre, fatigué. Et puis, il y a cette guerre, cette occupation. Lui, il a fait 14, vous savez, soi-disant, la der. Il était à Verdun, alors le maréchal Pétain, il l'avait en adoration. Et avec tout ce qui se passe, eh ben, il ne sait plus quoi penser. Alors, il ne dit plus rien. Quand il ne travaille pas, il s'enferme dans la chambre à grains. Là, il fait comme nos bœufs. Il rumine toute la journée. En 42, il est allé à Ambérieu le voir, le Pétain. Et c'est depuis, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je crois qu'il n'aurait jamais cru le maréchal capable de se coucher comme ça devant les Boches. Puis toutes ces histoires avec vous, les étoiles jaunes, tout ça, jamais on n'y aurait cru. Dans les tranchées, son meilleur copain s'appelait Aaron. Avec pareil prénom, il devait bien être de chez vous.
Sans doute. Et le père de Pierrot, votre fils ?
Le Jean, mon fils, lui, il est en Allemagne, prisonnier dans une ferme. Il a été pris au premier jour de la guerre sur la ligne Maginot. Il a d'abord été envoyé dans un camp, puis comme il était paysan, ils l'ont envoyé dans une ferme pour remplacer le mari qui, lui, est peut-être bien soldat chez nous. Oh, il est pas maltraité. C'est mieux que dans les camps. Au moins, il mange à sa faim. Les fermiers sont gentils. De temps en temps, on lui envoie des colis. Non, c'est surtout pour nous que c'est dur. Tout ce travail à faire avec l'été qui s'approche. Les moissons, les foins, les vendanges. Et avec le père, on est si fatigué. Et notre bruche. Je vois bien qu'elle trouve le temps bien long. Si seulement on savait quand ça va finir. En plus que maintenant, les Boches ont remplacé les Italiens. Avec eux, c'était mieux. Ils sont tellement feignants, on les voyait jamais. On était trop loin, trop perdus pour eux.
Comme quoi, d'être feignant, c'est des fois une qualité.
Ça, c'est vrai. Feignant comme cochon.
Si vous voulez, on peut vous aider. On vient tous de la ville. Mais si vous nous montrez, surtout aux grands, on devrait y arriver. Si ça se trouve, on est moins feignants que les Italiens. Et pour nous, les Juifs, le cochon.
Ça, moins feignant que ça n'est pas difficile. Puis c'est vrai que vous êtes nombreux.
44 enfants et 7 adultes. 44 enfants qui ne savent rien de leurs parents, de leur famille, et qui font semblant de ne pas être malheureux. Et nous qui essayons de leur remonter le moral.
Vous en avez du courage.
On n'a pas le choix. Il y a 5 ans, jamais on n'aurait pu imaginer ce qui se passe aujourd'hui. Il y a 5 ans, on était comme tout le monde. Maintenant, on n'est plus rien. Untermenschen, qu'ils disent.
Et ça veut dire ?
Sous-homme. Ça veut dire sous-homme. Des animaux. Voilà ce qu'on est devenu.
C'est bien de la pitié, tout ça. Si on savait ce qui s'est passé pour que le bon Dieu laisse faire des choses pareilles.
Le bon Dieu, en ce moment, il doit regarder ailleurs. Et puis, il faut croire que les enfants juifs, ça ne l'intéresse pas trop.
Jacques, Hermann, Max et Esther sont sortis du réfectoire. Restent Théodore et Mina.
Ça va, Mina ? Alors, ce livre, on le lit ?
Si tu veux, mais tu sais, je sais lire toute seule.
Je sais bien que tu sais lire toute seule, mais c'est mieux à deux, tu ne crois pas?
Si, je crois.
Tu te plais ici?
Oui, un peu, mais ma maman me manque trop. Je suis quand même contente parce qu'elle va venir me voir la semaine prochaine avec Alexandre et Monique, mes autres frères et sœurs.
Je te comprends.
Et toi, il n'y a personne qui vient te voir?
Non, mais moi, je suis grand, je n'ai pas besoin.
C'est vrai que tu es allemand?
Je suis les deux, allemand par mon père et français par ma mère.
C'est de quel pays que tu préfères?
Je ne sais pas, ils sont bien tous les deux. Kif kif bourrico.
Kif kif bourrico? Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que quand on est juif, la France ou l'Allemagne en ce moment, c'est pareil. Nous on croyait qu'ici ce serait mieux, mais c'est pareil. Je te dis, c'est kif kif bourrico. Elle a quel âge, ta Claudine?
Claudine, elle a 5 ans. Mes autres frères et sœurs, les autres qui sont avec ma maman, Alexandre, il a 13 ans et Monique, elle a 3 ans. Elle est toute petite, toute kif-kif-bourrico.
Non, elle n'est pas comme ça, ta sœur. Je suis sûre, par contre, qu'elle est très très jolie.
Tu la connais?
Non, mais je l'imagine. Je suis sûre qu'elle te ressemble.
Et il y a aussi Léon, et lui, il est grand comme toi. Mais les Allemands l'ont emmené avec mon papa. On ne sait pas où ils sont.
Bon alors, tu viens jouer?
Oui, attends, je prends mon violon.
Depuis quelques mois, tous les jours, pendant 1 heure, sous la direction de Suzanne Sarah, la directrice de la colonie, les enfants musiciens travaillent et répètent ensemble. Qui à la flûte, qui à la clarinette, au violon, au piano ou à l'accordéon. Pour la Saint-Jean, ils ont décidé qu'ils offriraient un concert aux gens du village. De la musique, des chansons. Une manière pour eux de les remercier.
Repartir avec. On cause. Je vous ai apporté quelques œufs. C'est le printemps, les poules ont recommencé à pondre. Vous les ferez à la coque pour les petits, ça va les requinquer. Et je pensais, votre fille qui est docteur, elle ne voudrait pas venir voir ma belle-mère. Elle est bien vieille. Elle a fait ses 93 ans. Elle ne se lève quasiment plus. Et elle commence à déparler. Une petite visite ne lui ferait pas de mal. On la paierait, bien sûr. Hein.
J'espère bien. Et moi, je vous payerai vos œufs. Vous savez, les juifs et l'argent, ce n'est pas ce que l'on croit. Il n'y a pas que des juifs riches, avec des doigts et des nez crochus. Tous les juifs ne s'appellent pas Rockefeller.
je pensais pas à ça. Et puis votre nez, vos doigts, ils sont pas crochus. Puis je savais bien que vous me diriez ça, pas payé. Mais fallait bien que je le propose, que je le dise. C'est de la politesse.
On doit avoir à peu près le même âge, toutes les deux. Alors, les politesses. Vous ne croyez pas que l'on en a assez vu? Vous voyez ce que je veux dire? C'est comment votre prénom?
Moi, c'est Rose, comme la fleur. Et vous?
Eva. Comme Eva. Comme Ève, la femme d'Adam. Vous voyez qu'on a les mêmes origines. Et ma fille Suzanne? En fait, elle s'appelle Sarah. Chez nous, ça veut dire princesse. Suzanne, c'était pour que ça soit plus facile. Ça fait moins juif. Et mon fils, lui, il s'appelle Léon. Je ne devrais pas vous le dire, mais je vous fais confiance. Il est parti rejoindre ceux d'Ambléon. Il n'en pouvait plus de rester ici à ne rien faire. Et un médecin dans le maquis, ça peut servir.
Vous pouvez me faire confiance. Croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer. Et votre fille s'appelle princesse? Vous vous mouchez pas du coude? Moi, c'est pas que je m'ennuie, mais il faut que j'aille préparer l'église pour la messe de ce soir.
C'est vrai que c'est pas pour vous.
Le jeudi saint, le dernier repas du Christ avant la passion et la crucifixion.
Le début de nos emmerdements.
C'est vrai, mais quelle idée aussi vous avez eue de nous le crucifier.
Je n'étais pas née. Je n'y suis pour rien.
Moi non plus. Bon, allez, à plus tard. Hein.
À plus tard, Rose. Sarah passera dans la journée voir la grand-mère. Et merci pour les œufs.
Les 3 et 4 octobre 1940, le régime de Vichy promulgue les premières lois à l'encontre des Juifs. Vichy abolit les valeurs de la République et, pour la première fois en France, le principe d'égalité entre les citoyens est renié. Au cours de l'été 1942, le régime de Vichy négocie avec les responsables de la police allemande un accord pour leur livrer 10 000 juifs de la zone non occupée et 20 000 juifs de la zone occupée. La France non occupée est alors la seule zone en Europe où les autorités compétentes livrent de leur propre initiative des juifs aux nazis. Au mois de juillet 1942, le gouvernement de Vichy demande aux Allemands l'autorisation de déporter les enfants de moins de 16 ans, jusqu'alors exclus des convois de déportation. Quand les premiers enfants sont arrivés à Izieux, c'est l'inspecteur d'académie qui m'a nommé là. Juste pour quelque temps, m'a-t-il dit, on ne peut pas les laisser sans instruction. Malgré tout ce qu'ils ont traversé, ils sont restés des enfants, joueurs, espiègles. Les plus grands prennent en charge les plus petits et tentent de leur faire oublier que la plupart d'entre eux sont seuls. Chaque jour, tous, ou presque, guettent le facteur, espérant des nouvelles de leurs parents. Quelques-uns ont encore leur maman qui vient les voir le dimanche. Des espèces de fratries se constituent au gré de leurs origines. J'ai parfois du mal à répondre à leurs questions, mais à la folie humaine, y a-t-il une réponse?
Assise d'or sur une marche de l'escalier, Esther regarde et écoute Pierrot, le petit-fils de Rose qui arrive par le chemin qui descend du village. En la voyant, il rougit.
Voici l'Angélus, Ave Maria.
Qu'est-ce que tu fais?
Je crécelle. Je sonne l'Angélus. Les cloches sont parties à cause que c'est Pâques, alors je les remplace.
Tu remplaces les cloches? Excuse-moi si je rigole, mais pourquoi faire?
Ben pour que les gens sachent l'heure. Je t'explique. À 7h, je commence en haut d'Izieux pour leur dire qu'il est 7h. Je fais tout le village, et là, je termine avec vous, avec toi. À midi, je recommencerai pour annoncer qu'il est midi, et le soir, à 7h, j'annoncerai la messe du soir. Et demain, je recommence.
Si je comprends bien, À 7h, en haut d'Izieux, tu leur annonces qu'il est 7h. Et 1 heure plus tard, en bas d'Izieux, tu nous annonces aussi qu'il est 7h. Ou tu cours très très vite, ou il y a un petit problème de décalage horaire. C'est bien que la Terre est ronde, mais là...
Évidemment qu'il y a un décalage, mais on s'en fout. N'importe comment, le curé, il n'est pas là. Il a foutu le camp au début de la guerre. Il est avec le pétain à Vichy. Mais le vrai intérêt, je t'explique. Aujourd'hui, jeudi saint. 3 fois. Vendredi. Belote. Matin, midi et soir. Et samedi, rebelote. Mais que le matin. L'après-midi, pour me récompenser de tout ce travail, de toute cette belle heure donnée, je range la bête et je fais la tournée du village. Souriant, aimable, poli. Je vais souhaiter des joyeuses Pâques à mes concitoyens, et les gens, heureux que je ne leur casse plus les pieds avec mon bruyant, me donnent une petite récompense. Un sucre d'orge, une friandise, des œufs pour ma mère, une petite pièce. C'est la magie de Pâques.
En fait, tu es un escroc.
Oui, mais un escroc sympathique. Souriant.
Ça s'appelle comment ton truc déjà ?
Un bruyant, ou une crécelle. Je crois que bruyant, c'est du patois d'ici. Faudra que je demande au maître. Ce truc est dans la famille depuis des générations. Mon père a crécelé, mon grand-père a crécelé, mon arrière-grand-père.
Des générations d'escrocs. Des générations de sonneurs de cloches qui clochent.
Et si tu arrêtais de te moquer de moi ?
Je ne me moque pas, mais tu avoueras que ce n'est pas ordinaire d'être ainsi de père en fils des escrocs.
Sympathique. Des escrocs sympathiques. Et si tu veux, ce que les gens vont me donner... Pour me faire pardonner, tous les deux, on le partagera.
Et pourquoi tu ferais ça ?
Ben, parce que... Mais si tu ne veux pas...
Mais si je veux. Tu sais, Pierrot, je n'ai plus trop l'habitude que l'on soit gentil avec moi. Quand on est arrivé d'Algérie en 38, on croyait qu'on allait être heureux. On est arrivé à Marseille et c'était un peu comme chez nous, à Mostaganem. Papa a tout de suite trouvé du travail à la savonnerie. On habitait un tout petit appartement, juste à côté du vieux port. On dormait tous les trois dans le même lit avec mes deux petits frères. Et quand la guerre est arrivée, au début, on s'est senti en sécurité. On était entre nous, en famille. Le matin et le soir, après l'école, j'allais regarder les bateaux qui arrivaient ou qui repartaient en Algérie et je guettais si je connaissais quelqu'un. Et puis moi, j'aime bien la mer. Des fois, on achetait du poisson aux pêcheurs quand ils arrivaient. Maman le faisait avec le couscous et on le partageait avec les voisins. Et puis, les Allemands ont envahi la ville et le 23 janvier 43, avec les policiers et la milice française, ils nous ont chassés du quartier. Ils ont emmené papa et maman, je ne sais pas où. Je les ai jamais revus. Après, ils ont fait sauter tout le quartier. Ils disaient que c'était la verrue de l'Europe. Avec mes frères, c'est l'office du secours aux enfants qui nous a tout de suite recueillis et emmenés à Montpellier. Et puis après, on est arrivés ici.
Et c'était quand ? Je ne t'avais pas trop vue jusqu'à présent.
C'est normal, tu ne viens jamais jusqu'ici. Ce n'est pas tous les jours que les escrocs de Pâques se déplacent vers le bas du village. Je suis arrivée avec mes petits frères, Élie et Jacob. Ça fera 1 an le 16 juin. Moi, je t'avais vue. La première fois, c'était un jour où tu menais les bœufs de ton grand-père pour arracher les patates. Tu jurais comme un charretier. Tu m'avais impressionnée avec ton grand bâton posé sur leur tête et eux qui te suivaient pendant que tu les traitais de tous les noms. Même que ça m'a fait peur qu'ils te rentrent dedans. Et tu jurais.
C'est normal. Il n'y a que ça qu'ils comprennent. Mon père, il leur parle comme ça. Alors, quand je leur remplace, je fais pareil, parce qu'ils n'ont pas l'air, mais ils sont têtus comme des mules. Et le grand bâton, ça s'appelle un aiguillon, ça a les diriger. Je t'explique parce que tu es de la ville. Moi, je ne t'ai pas vu ce jour-là. Je t'ai vu la première fois un jour où tu es justement venu chercher les patates avec Monsieur Zlatin. Je me rappelle. Tu avais une robe bleue et un foulard autour du cou. et tu chantais un truc qui parlait d'étoffe.
D'étoffe ? Tu as rêvé ?
Si, tu disais j'ai mal à l'étoffe.
Mazel tov, ça veut dire bonne chance, c'est du yiddish. Et toi, avec tes bœufs, tu avais de la terre jusqu'aux genoux et des sabots en bois.
C'était pour ne pas user les souliers que je mets pour l'école.
Moi aussi, je fais attention à mes affaires et à celles de mes frères.
C'est toi qui t'occupes d'eux ?
Oui.
Vous n'avez plus de parents ?
Non. Enfin, je ne crois pas. Ils ont été emmenés par les Allemands. Et là où ils sont allés, personne jusqu'à présent n'est revenu. Maintenant, c'est moi la chef de famille.
Tu es triste ?
Je n'ai pas le droit d'être triste. J'ai mes frères à faire grandir, et il y a tous les autres ici. Et puis toi, maintenant que l'on se connaît, qu'est-ce que tu penserais si je me mettais à pleurer ?
Ben, je te consolerai.
Dis donc, tu ne perds pas de temps. Vous êtes tous comme ça ici ? J'ai entendu ta grand-mère. Ton père est prisonnier ?
Oui, ça va faire 4 ans. Déjà maintenant, je n'arrive plus à me rappeler la tête qu'il a. Il nous écrit, mais ce n'est pas pareil. Surtout le soir qu'il nous manque. Et bien sûr pour le travail, parce que c'est moi qui l'ai en place. Et le grand-père, il n'est pas commode. Il n'est jamais content. Là, je vais passer mon certificat. Je voulais aller au collège à Belay. Mais je vais pas pouvoir. Ils ont trop besoin de moi à la ferme. D'ailleurs, faut que j'y retourne. Tu viendras chercher les soirs. C'est moi qui serai là. Ils vont tous aller à la messe. Il y a un curé qui vient exprès pour laver les pieds des vieilles et des vieux. Quand il va laver les pieds du grand-père, il va pas être déçu d'être venu. À tous les coups, il envoie sa démission à l'évêque et on le revoit plus.
Tu es bête. Et c'est quoi ce truc de laver les pieds des gens ?
Je suis bête, mais je te fais sourire. Et je suis très belle quand tu souris. Pour les doigts de pied, je n'en sais rien. C'est un vieux truc du temps de la Bible. Un truc moderne, quoi. Et si tu viens au lit vers 8h, je pourrais te raccompagner. Enfin, si tu en as envie. Bon ben, quand faut y aller, faut y aller. À ce soir. Parce que maintenant, il est carrément 9h. La précision suisse.
Tu es bête.
Bête mais drôle.
Voici le père Gibus qui secoue ses puces.
Moi, je m'appelle Théodore. Théodore Reis. J'ai 16 ans. Ici, c'est moi le plus vieux des jeunes. Ou le plus jeune des vieux. C'est comme on veut. Je suis né en Allemagne, à Eggelsbach. Mon père était allemand et ma mère française. Elle me parlait toujours en français. C'est pour ça que je parle français correctement. On avait avant la guerre une petite bijouterie. Mon père fabriquait des bijoux en or, des bagues de fiançailles, des alliances. J'avais une dizaine d'années, mais je m'en rappelle bien. Une nuit, les nazis sont venus chez nous ont jetés à la rue, ont tapé mes parents, nous ont tout volé, ont tout cassé dans notre appartement. Et ont emmené mon père. On ne l'a jamais revu. Avec maman, on est resté dans la rue. Elle pleurait. Et moi, je ne comprenais pas ce qui nous arrivait. C'est des voisins, les Schreiber, qui nous ont pris chez eux. On y est resté quelques jours, et après, on est allé chez mes grands-parents, les parents de mon père. L'école m'a été interdite. Maman n'avait plus le droit de travailler, et 6 mois plus tard, un jour du mois de mai, les hommes de la Gestapo sont venus nous chercher et nous ont emmenés à Hambourg, dans un train, avec plein d'autres juifs. Ils nous ont fait monter sur un bateau, le Saint-Louis. Pour ça, ils nous ont pris tout ce qu'il nous restait, même l'alliance de maman. C'était pour payer le bateau, soi-disant. On était ainsi des centaines à être chassés de notre pays. On a traversé l'Atlantique. Ça, c'était bien. C'était comme une fête. Il y avait des spectacles, des bals tous les soirs. Le capitaine était formidable. Il nous a appris qu'il nous emmenait sur l'île de la Havane, où nous étions attendus. Quand on y est arrivé, en fait, à la Havane, ils n'ont pas voulu de nous. Ni les Américains. Ni personne. Pendant 3 semaines, le bateau a tourné de port en port, espérant pouvoir nous débarquer. Personne n'a jamais voulu de nous. Alors, un mois plus tard, on est revenu en Europe. Nous, avec maman, on a réussi à débarquer en Belgique et à venir en France, retrouver de la famille. On a fait des recherches pour retrouver mon père. On a appris qu'il avait été emmené dans un camp de travail, en Pologne. On n'a jamais eu de nouvelles. Pendant 3 ans, on a été tranquille. Maman a retrouvé du travail, mais le 10 mai 42, la Gestapo nous a emmenés, maman et moi, au camp de Rivesaltes. Après, moi j'ai été placé dans un foyer, à Palavas-les-Flots. Je n'ai jamais revu maman. Et depuis le printemps dernier, je suis ici, à Izieux.
Sur le chemin qui remonte au village, Rose retrouve son petit-fils Pierrot, qui lui aussi, après son devoir de catholique, ou d'escroc, comme dirait Esther, retourne à la ferme. Lui aussi est en vacances, enfin. Des vacances de petits paysans, des vacances pleines de travail, de bêtes à soigner, de vaches à garder, d'écuries à nettoyer et pailler.
Dis donc, mon Pierrot, où étais-tu encore passé? As-tu fini ton tour de village? Parce que je t'ai point entendu. Faudrait que t'ailles faire téter le veau.
Pourtant, je n'ai pas arrêté. Voilà seulement que j'arrive. Je vais y aller au veau. Vous pouvez bien attendre un peu, l'on mourra pas.
Ça serait pas plutôt le petit tour que t'as fait à la colonie qui t'aurait retardé?
Je m'y suis pas arrêté longtemps. Juste le temps de discuter avec quelques copains.
Ouais. Copains ou copines?
Les deux.
Elle est gentille, la petite Esther.
Oui, mais pourquoi tu me parles d'elle?
Tu sais, Pierrot, tu devrais peut-être pas trop aller vers la colonie.
Pourquoi?
Comment te dire? Ils sont sûrement gentils, mais ils sont pas comme nous.
Ils sont comment?
Pas comme nous, différents. Ils sont pas d'ici. On sait pas d'où ils viennent et ce qu'ils ont fait, eux ou leurs parents, pour avoir été envoyés ici.
Moi je sais, Esther elle vient d'Algérie et ses parents ils n'ont rien fait à personne que d'être juifs. Toi non plus mémé, tu n'aimes pas les juifs? Pourtant tout à l'heure j'ai bien vu que tu discutais avec Madame Eva.
Mais si, j'aime les juifs, c'est pas le problème. Madame Eva, pour une juive, elle est bien gentille.
Et alors, c'est quoi le problème?
Le problème, c'est que les gens y causent. Et qu'on sait pas tout ce que ça va devenir. Moi, tu sais, à mon âge, je risque plus rien. Mais toi, déjà que ton papa est en Allemagne, je voudrais pas que ça porte tort à ta maman. Dans le village, tout le monde n'est pas d'accord avec nous. Il y a des gens qui sont pour le maréchal et les Allemands. Des gens qui, eux, n'aiment pas les Juifs. Le docteur Benvriem de Brégnier, tu as vu, ils l'ont emmené. Et pourtant, il était docteur, il était français. Il faisait pas d'histoire, il soignait tout le monde. En plus, il s'était converti. Il était devenu catholique comme nous. Quand il venait pour la mémé, il avait toujours un petit mot gentil ou une friandise à te donner. Tout le monde l'aimait bien, mais ça n'a rien empêché. Et maintenant, on n'a plus de docteur.
Et pourquoi c'est comme ça? Ils nous ont rien fait?
Bien sûr qu'ils ne nous ont rien fait.
C'est pas juste.
Tu as raison, c'est pas juste. Mais c'est malheureusement comme ça, et nous, on n'y peut pas grand-chose.
Moi, tout ça, je m'en fous. Si je veux, j'y retournerai. Et c'est pas les boches qui vont m'en empêcher.
Ouais, bah si tu retournes, ramène-moi donc mon panier. Je l'ai laissé sur la table.
Les Allemands étaient chez moi, on m'a dit résigne-toi, mais je n'ai pas pu. J'ai repris mon arme, personne ne d'où je viens et où je vais, vous qui le savez.
Les gars, je viens de me faire traiter de parigot tête de veau par les gars du village.
Tu as de la chance pour une fois qu'on ne traite pas du pain.
Ce n'est pas une raison. On ne va pas se faire insulter par des bouseux. Non mais vous les avez vus avec leur tête de paysan qui pue la vache.
C'est vrai ça, qu'il pue la vache. Même que tout à l'heure, il y en a un qui est venu et j'ai entendu. Il a même donné un rendez-vous à Esther ce soir à 8h. Vous savez ce qu'on va faire? On va y aller et on lui cassera la gueule.
C'est ça, bonne idée.
Sa sale gueule de paysan nazi qui pue la vache. Vous verrez quand la guerre elle sera finie. On leur cassera la gueule à tous ces salauds de français qui sont pour les boches. Parce que, moi et ma mère, ce ne sont pas des Allemands qui nous ont chopés. C'est des bons français. Des bons gros salauds de français qui nous échangent contre une douzaine d'œufs ou un rôti de cochon. Que d'ailleurs, ils peuvent bien le bouffer leur cochon. Et qu'ils en crèvent. Parce que nous, leur étoile, on la portait pas. Alors, comment qu'ils ont su? Qui c'est qui nous a vendus? Un voisin? Un copain d'école, peut-être? Le maître? Lui, ça m'étonnerait pas. Tout le temps en train de nous parler de pétain. Pétain par-ci, pétain par-là. Fumier! Moi, je vais me barrer d'ici. Je vais rejoindre le maquis. Pareil qu'il y en a un pas loin. J'ai entendu l'autre jour le Léon en parler avec la directrice et la maîtresse avant qu'il s'en aille. Je vais aller les retrouver et je vais leur montrer ce que c'est un Polak en colère. À grands coups de mitraillette dans leur sale gueule de collabo. Et pas de pitié. Ils en ont eu de la pitié pour mon père et ma mère. Comme des chiens, je les tuerai. C'est tout ce qu'ils méritent. Alors pour commencer, le Pierrot, je vais lui casser la gueule.
Hé les gars, je vous signale que si ce soir vous allez bouffer des œufs, c'est grâce à lui. Il pue peut-être la vache, mais il a des œufs.
Ah bon? Il pond des œufs, lui? Je croyais que c'était les poules qui pondaient des œufs.
Toi, tu es vraiment trop con. Et puis Pierrot et Esther, vous allez leur foutre la paix. Ils ne vous ont rien demandé. Esther, elle a le droit d'avoir des amis, même s'ils ne sont pas juifs. Moi, au collège, j'ai des copains pas juifs. Il y a des catholiques, des protestants et moi. Et si ça se trouve, je ne suis pas tout seul. On est plusieurs juifs dans l'école. Ce n'est pas écrit sur notre figure.
Non, Esther, elle n'a pas le droit. Elle est à nous. Ici, on est entre nous, comme une sorte de famille.
Tu parles d'une famille?
Et toi, comment ça se fait que tu n'es pas ici tout le temps, avec nous, comme ton petit frère?
Je n'en sais rien. Sûrement qu'ils m'ont trouvé trop intelligent pour être avec des bonnets comme vous. Je rigole. C'est vrai que je ne sais pas pourquoi je suis là-bas, à Belay, dans cette école catholique. Ils m'ont bien accueilli, ils m'ont changé mon nom et mon prénom. Chez eux, je m'appelle plus Max Balsam, mais Marcel Petit. Au début, ça m'a fait drôle. Je ne répondais jamais quand on m'appelait. Mais comme maintenant tout le monde m'appelle Marcel, je m'y suis fait.
Et c'est comment chez les curés?
C'est bien, les professeurs sont gentils, on mange bien, enfin assez. Le lundi, on a des patates. Le mardi, des patates. Le mercredi, des patates. Le jeudi, on a des patates. Le vendredi, des patates. Le samedi, des patates. Et le dimanche, pour changer, on a des pommes de terre.
C'est pareil, des patates et des pommes de terre.
Ah bon, tu as remarqué? Faut pas que tu fasses attention. Il est gentil, mais il a manqué un fagot à la cuisson.
Quelle cuisson?
Rien, cherche pas.
J'y comprends rien à vos histoires.
C'est normal, c'est ça qu'on disait. Et il y a des filles avec vous?
Bien sûr que non. Les filles, elles sont avec des bonnes sœurs dans un autre collège. On les voit le matin à la messe et le dimanche. Nous à droite de l'église et elles à gauche. Et interdiction de les regarder. Mais on s'en fout, on les regarde quand même. On leur fait des clins d'œil quand le curé a le dos tourné. On leur fait passer des petits mots par les enfants de cœur.
C'est quoi ça?
Les enfants de cœur, c'est des garçons de notre âge, habillés en filles, qui aident le curé à porter un gros livre et à boire des petits coups de vin blanc.
Ils boivent des petits coups de vin blanc pendant la messe? La chance!
Pas eux, le curé.
C'est vachement bien, catholique, c'est mieux que juif.
Et tu vas à la synagogue?
Non, je ne sais même pas s'il y en a une à Belay. En plus, à Paris, on n'y allait jamais.
Et tu n'as pas fait ta bar mitzvah?
Sûrement pas. Mon père, il est communiste et il dit toujours ni Dieu ni maître. Abba la kippa.
Dis donc, il cumule ton père. Juif et communiste, tout ce qu'ils aiment.
Tu l'as dit.
Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? On va lui casser la gueule au Pierrot ou on le laisse tranquille?
Qui veut casser la gueule à qui?
À personne, c'était pour causer.
Je vous ai entendu. Vous n'avez pas intérêt à l'embêter. Pierrot, c'est mon ami.
C'est vrai, laissez-le tranquille et il ne vous a rien demandé.
Bravo, Mina. Tu as raison. J'entends du bruit. Je crois que tout le monde se réveille.
Je viens chercher le panier de ma grand-mère. Vous savez où il est?
Il est 9h, ce 6 avril 1944, à la colonie d'Izieux. Ce sont 44 enfants et 7 adultes qui les encadraient, qui sont brutalement chargés dans des camions par des troupes de la Gestapo, sous le commandement de Klaus Barbie. Ils ont été dénoncés. Poussé dans un escalier par sa mère, Léon, musicien, joueur de clarinette, fils de Sarah, petit-fils d'Eva, réussit à se sauver par la fenêtre et se cache dans le village. accueilli dans une famille, il y restera jusqu'à la libération et partira ensuite pour les États-Unis, retrouver de la famille. Quand à la fin des vacances, je revins à la colonie, je ne savais rien de ce qui s'était passé. Il n'y avait plus personne, plus rien. Des bols sur la table, des affaires éparpillées, et au milieu d'un tas de cahiers et feuilles de papier, les fables de La Fontaine, illustrées par Benjamin Rabier.
Le 6 avril 1944, mon père, lorrain réfugié, exerçait son métier d'instituteur à quelques kilomètres d'Izieux. Il y connut ma mère. J'ai donc passé toutes les vacances de mon enfance dans le Bugey. Moi aussi, à garder les vaches ou ramasser les patates comme Pierrot. Et lorsque j'étais enfant, je suis allé plusieurs fois goûter à la colonie, que gérait une lointaine cousine. Je ne savais pas. Jacques, Herman, Esther, Mina, Max, Théodore, Eva ont réellement existé. C'est leur vrai nom. Ce qu'ils racontent d'eux, je l'ai trouvé dans les archives et j'ai essayé, pour le temps d'un spectacle, de les rendre vivants. Qu'ils me pardonnent si parfois je me suis trompé. Avec tous les membres de la colonie, ils ont été gazés dès leur arrivée à Auschwitz, quelques jours après leur arrestation. Les plus jeunes, dont Claudine, la petite sœur de Mina, avait 5 ans. Théodore, lui, un autre adolescent et un éducateur ont été assassinés à Tallinn en Estonie. Seule une adulte, Léa Feldblum, a survécu à la rafle. Gabrielle, elle, a continué d'enseigner l'orthographe et le calcul aux enfants de l'Ain. Jusqu'à sa mort en janvier 2010, à 87 ans, elle conservera dans sa boîte à souvenirs le sifflet que le malicieux et délicat Raoul lui avait offert pour l'aider à rassembler sa classe sans s'esquinter la voix. Quant à Rose et Pierrot, je les ai inventés. Sans doute ont-ils existé, mais ils ne s'appelaient pas Rose et Pierrot.
Cette pièce radiophonique est une création de l'école de musique, de danse et de théâtre du pays de Forcalquier, montagne de Lure. Imaginée, réalisée et écrite en compagnie des Oliviers, partenaires de l'école. Le scénario et les dialogues sont de Jean-Pierre Georges. Le montage, les arrangements et accompagnements musicaux ont été réalisés par Sarah Larère. Vous avez pu entendre dans le rôle de Théodore à la guitare et à la clarinette, Jules. Dans le rôle de Jacques et à l'autre clarinette, Baptiste. Anna Lucia, au violon, est dans le rôle de Mina. Anna était Esther, Swan, Herman, Basile, Max, Elouen, Pierrot. Les rôles adultes étaient tenus par Gigi, dans le rôle de Gabrielle, ainsi qu'à la flûte traversière. Anne était Rose et Chantal, Eva. Ce travail, nous le dédions aux enfants d'Izieux et à tous les enfants du monde. Puisse cette horreur ne jamais recommencer. Soyons, soyez vigilants, car le ventre est encore fécond. D'où a surgi la bête immonde.